La vengeance d'une impératrice, le chapitre 2. Le ciel était d'un gris de plomb. Le navire n'avançait plus à la voile. Pour approcher la côte d'un abord difficile, le capitaine avait dû recourir au rameur afin de mieux guider le mouvement. Il y avait des creux, comme toujours, sur cette mer dont la teinte tire sur le noir profond. Il arrivait lentement, pas mal secoué. Passant devant la demeure d'Ovid, vrai bicoque où il vivait parmi les caisses, quelqu'un du village lui avait crié en jette « Hé, oh, le Romain, un bateau va bientôt accoster. Tu vas peut-être avoir des nouvelles de ta femme et de tes copains. T'en attends tous les jours. Cette fois, tu vas voir, ça va être la bonne. Depuis le temps... J'y cours pour aider à tirer à sec, puisque la marée est au plus haut. Faut en profiter. Allez, dépêche-toi. Si tu veux, je t'accompagne. » Le jet avait dit depuis le temps. Ovid s'était traîné. Il n'avait accumulé que des cheveux noirs et sels, la maigreur avec cette nourriture abominable que dans les débuts, il avait souvent vomi. Il était un exilé, non pas sur une île déserte. Autour de lui, il y avait du monde, dont par force il avait appris la langue, une langue de barbares, comme disent les Grecs, dont certains vivent par ici pour du commerce de peau et de poissons séchés. Ils sont presque tous originaires de Milet. Présents, des légionnaires parlent latin, mais ils ont reçu l'ordre ni de lui adresser la parole, ni de l'écouter poser une simple question. Des Grecs, oh, il y en a partout dans ce triste pays. Ils repèrent, ils bavardent. Ces coreligionnaires de Gorgias ou d'Amphitiphon n'ont en tête que le fric et les affaires. Un Grec roule trois Romains. Aucun respect pour les dieux, sinon Hermès, auquel ils adressent des prières intéressées. Et pour cause, puisqu'il est le dieu des filous, des voyous, des banquiers véreux. Mais, comme Ovid savait du grec, parfois il partageait des moments avec eux. Autant dire que le niveau des conversations rasait le sol. Il avait fait de gros efforts pour marcher plus vite. Son cœur, fatigué par la solitude et l'ennui, tenait le rythme tant bien que mal. Il se réfugiait dans l'espoir de recevoir des nouvelles de Rome, du courrier, des informations sur la santé des uns et des autres, les naissances, les décès, les soutiens qu'il espérait des plus hauts placés, afin que cet exil en finisse une bonne fois, qu'il soit enfin relaxé ou transféré ailleurs. Sur cette plage, il était difficile de faire accoster un bateau dans de bonnes conditions. La garnison romaine de Tomis avait bien installé un gros ponton en bois, mais qui remet trop par temps agité et les bateaux ne le touchaient que par mer très calme. D'ailleurs, ce lieu choisi pour le reléguer n'était pas un port, mais une petite bourgade ceinturée de hautes palissades, perdue à quelques mille pas de la mer. Des Gaulois auraient dit « Au diable vos vers !» La coque n'avait pas encore touché le sable mêlé de cailloux, et le vieux poète entendait les craquements des lys et de tout le gréement. La voile avait été affalée. Les rameurs forçaient de leurs rames sur une eau qui leur échappait souvent à cause des vagues dont les creux mesuraient presque 6 pieds. On entendait des cris de commandement, des jurons, des protestations. On courait sur les ponts. Dans un raclement puissant, la coque glissa sur la plage. Depuis le gaillard d'avant, deux hommes musclés jetèrent une ancre au plus loin qu'ils purent. Du haut d'un bordé, d'autres déroulèrent une échelle de corde au bas de laquelle Ovid se dirigea. Il y avait foule de curieux ou de commerçants qui attendaient telle ou telle livraison de colis. Ovid apprit alors que les bateaux transportaient les produits venant d'Italie après transbordement à Byzance. Le premier matelot descendu parlait latin et au milieu du remue-ménage, assura le poète qu'il y avait des paquets pour lui. Son cœur se remit à battre la chamade. Qu'allait-il recevoir, apprendre? À la fois, il espérait et redoutait une lettre de Fabia, sa si tendre épouse, si loin de lui, si attentionnée. Elle avait peut-être obtenu une intervention en sa faveur, ou persuadé un ami influent auprès d'Octave pour le faire soit revenir, soit changer le lieu de son exil pour une région plus proche de l'Italie. Certes, il avait laissé plein d'amis surpris par sa condamnation, en particulier Tutti Canus, son ami d'enfance, car les autres l'assuraient encore de leur amitié fidèle, mais restaient prudents. Les colères d'Octave et surtout de Livy étaient légendaires. Déjà vieux, ils avaient peur de tout et se claquemuraient au Palatin. Un de ses voisins d'ici lui proposa de l'aider à porter ses paquets et courriers. Un grec né dans le triste patelin. Il s'appelait Callias. Beau nom s'il en fut, plus beau que ce pauvre gars boiteux depuis sa naissance, mais d'une gentillesse chaque jour un peu plus émouvante. Et comme Ovide faiblissait avec l'âge, ce handicapé avait pitié de lui, venait souvent le voir, aimait la poésie, connaissait Homère sur le bout des doigts et récitait parfois de manière touchante avec un accent ionien très appuyé. Ses parents étaient originaires de Milet. Malgré son pied beau, il était solide, faisait du ménage au besoin, savait cuisiner le poisson comme pas un, des gibiers faisandés, et avec la faim, tout devenait supportable. On arriva. Avec ses outils, Callia s'aida à ouvrir une caisse où Ovide découvrit d'abord sur le dessus, surprise fort inattendue, deux portraits en feuilles de laiton travaillés en ronde basse, Octave et Livy, les auteurs de sa condamnation. Callias remarqua la pâleur soudaine du poète. Il faisait des efforts pour contenir sa rage. Il devrait donc, en permanence, devant ses yeux, avoir ces salopards. Il l'avait envoyé à l'autre bout de l'univers et sans lui dire clairement le pourquoi. On le lui avait laissé entendre. De ce fait, il n'avait pas osé demander la moindre précision, de peur d'irriter ses juges du Palatin. À travers toute l'Italie, on assimilait Octave et Livy à des dieux qu'il faut prier, comme si le nombre des autres ne suffisait pas avec leurs centaines de fêtes. Lui avait-on envoyé ses figures pour qu'il les posât à côté de ses lards? C'en était trop. Pourtant, l'expéditeur devait avoir des arrière-pensées, mais lesquelles? Oh, il verrait plus tard, et comme on dit, à tête reposée. Peut-être une façon de le calmer, de lui faire comprendre que ces deux énergumènes n'étaient pas si méchants qu'il les avait estimés. Avec Octave et Salivi, on pouvait s'attendre même à une plaisanterie de mauvais goût. Des gens orgueilleux et méprisants, imbus de leur pouvoir, aimant gourturer. Ou bien alors était-ce une manière de lui redonner de l'espoir? Callias et Ovide continuèrent de déballer. Il y avait du courrier en bon nombre de rouleaux. Les yeux troublés, le poète ne reconnaissait pas les sceaux des divers expéditeurs. Il chercha celui de Fabia, mais Callias ne savait lire quoi que ce fût, du latin ou du grec, sinon des signes particuliers à chacun. On décacheta au hasard. Le premier venait d'un Aurelius Cotta. Il racontait plus de blablabla que des nouvelles sérieuses sur l'état des affaires. Ovide avait beau s'être plaint à lui de ne rien faire en sa faveur, mais il n'y avait rien de nouveau à Rome, selon lui, sauf qu'Auguste avait fermé les yeux sur un complot fomenté par un certain Sinna. Aucun souvenir précis. Il racontait les frasques d'un tel, le goût des choux dans tel potée. Il lui fallut enfin arriver à un avant-dernier rouleau pour y reconnaître le sceau de Fabia, son épouse. Elle y narrait ses rencontres avec des matrones diverses, qu'on parlait de lui par moments, qu'elle avait rendu visite une fois à Livie, mais n'avait pas osé lui parler de l'exilé, tout cela par prudence ou peur de la fâcher. Ainsi, Fabia semblait comme l'oublier. Elle se plaignait en outre d'être l'objet de distance à cause de lui. Toutes les lettres où il lui protestait de sa fidélité n'avaient eu aucun effet marquant. Elle lui disait s'occuper régulièrement de leurs affaires, de leur fortune, comme si cela pouvait le consoler dans ce pays abominable. Et depuis, il ne savait plus quand. Ovid avait dû rejoindre ce pays de Tomis, sur les bords de la mer Noire, le pont Euxin. Pays horrible, froid, dangereux, entouré de populations à 100 000 de la civilisation, de guerriers violents. Il ne savait que la chasse, la pêche, habillés de peau de loup, noyés sous d'énormes barbes rousses. Oh, s'ils avaient au moins connu l'Italie, les maisons vastes, la beauté des intérieurs ornés, de peintures, les mosaïques, l'élégance des femmes, les parfums, les réunions intimes et les festins, où les cratères sont remplis de vins fameux, les jardins entretenus parmi des péristyles propres au repos fructueux, conduisent à composer des poèmes récités les après-midi dans les basiliques, les dîners à 9 personnes autour d'un triclinium. C'était surtout ce sentiment d'abandon dont il se sentait l'objet de la part de tous, autant les plus proches que les amis. Si, bien sûr, les uns et les autres lui écrivaient comme pour se donner bonne conscience, mais ces uns et ces autres, sa femme, ses amis, se disaient fidèles, bien sûr. Cependant, ils devaient tous se méfier d'une censure secrète du palatin. Ils n'avaient pas remarqué que les sceaux des lettres reçues avaient pu être violés, mais plus ou moins trafiqués, recopiés, car il y avait partout des espions, d'abominables délateurs. Cet abandon lui donnait la sensation profonde d'une mort programmée. Il n'avait pas été condamné au sens exact du terme, mais l'abandon est comme celui d'un enfant livré à l'indifférence, ce péché mortel que l'on inflige à tout malheureux, à tout prisonnier de guerre devenu esclave. Un prisonnier passe, comme on dit, sous le joug. Il est désormais classé dans la catégorie des animaux bons pour les travaux des champs, des portefeuilles, de ces gens que l'on nourrit des restes des repas, que l'on attache à des chaînes, à qui l'on interdit de prier. Un adolescent peut le frapper, le couvrir de mépris ou de crachats. L'esclave est abandonné par les dieux. Il n'a plus son génius, cet ange gardien, censé le protéger depuis sa naissance. L'abandon, c'est la solitude absolue au milieu d'une société qui vous achète et vous vend tel un meuble, mais un meuble vivant. On sera libre de le tuer comme on casse un coffre rongé de citron. On en brûlera les planches, ne serait-ce que pour le feu dans une cuisine. Ovid est de 7 esclaves. Chaque jour exposé à ces mauvais coups que porte un maître violent, un ennemi le pire, celui de tous les instants, sournois, brutalisant le corps, l'esprit, l'espoir, l'envie de respirer. Ici, il ne connaissait que la misère, celle des autres et la sienne, la peur, la solitude qui ravage les plus endurcis. Cette épouse, pouvait-elle se rendre le véritable compte de son état? Ce qu'elle lui écrivait ne faisait qu'augmenter son malheur, sa haine contre l'empereur, Cet homme d'abord admiré, aujourd'hui détesté, finalement un pauvre type que l'impératrice menait à grand galop pour le conduire. On savait tout. Il avait laissé tomber au sol la lettre de sa femme. Qu'as-tu à être pâle et tremblant? Dit Callias. De mauvaises nouvelles? Eh non, justement. Des nouvelles, rien. Il n'y a rien dans cette lettre. Mais comment ça, il n'y a rien? C'est écrit tout plein sur ce papier. Et puisque toi, tu sais lire, tu ne peux pas me dire qu'il n'y a rien. Eh si, justement, il n'y a rien. Que des mots, du vent. Mais si vraiment c'est ta femme qui t'écrit, il y a sûrement quelque chose. Moi, tu sais, je n'ai pas de femme. D'ailleurs, aucune famille n'aurait accepté de me donner une de ses filles. Oh non! Et puis tu vois comme je suis. Ma mère aurait pu m'exposer aux bêtes pour se débarrasser de ce bébé moche, aux pieds tendus. Elle m'a gardé parce que je suis un garçon. Une fille, oh, j'étais bon comme pâture au renard. Parce que les filles, on ne les garde pas, sauf si le père le veut bien. Elles ne sont bonnes à rien, disent les gens d'ici, sauf pour coucher avec. Mais moi, quand je suis né, mon père a récité deux vers d'Homère, tu sais, lorsque Thétis, au pied d'argent, console son fils en colère d'avoir perdu son ami Patrocle. Mais ce que le destin a voulu, laissons-le s'accomplir malgré nous. Et au fond de notre cher cœur, résignons-nous devant la nécessité. Ah, tu vois, c'est pour ça que tu auras pu me connaître. Oui, laissons-le s'accomplir. Tu entends ce verbe asomen qui veut dire laissons tomber. Et puis cette nécessité. Que faire, mon ami, que faire devant la nécessité? Ananke, la nécessité. Oh, ce mot m'a toujours semblé terrible, surtout quand mon père le prononce. Mais non, mon beau Callias, la nécessité n'existe pas. Comment ça, elle n'existe pas? Et mon pied beau, qu'en fais-tu? Mais ce n'est pas la nécessité, c'est le simple hasard. Nous ne savons jamais pourquoi tel naît avec un bras en moins, une jambe tordue, pas d'oreille. Alors c'est le destin voulu par les parques. Non, Callias, le destin n'existe pas plus que la nécessité dont a parlé ton père. Si destin il y a, c'est nous qui le fabriquons. Tu penses bien que les parques, et si elles existent, ce ne sont pas elles qui ont décidé de ton pied beau. Tout simplement, la vie est un mystère, la mort aussi. Mon frère avait 20 ans quand il est mort. Nécessité? Destin? Non, seulement la maladie. La peste, le choléra, les fièvres, qui en décide? La nécessité, oh, je ne vois pas en quoi il serait nécessaire que tant de gens meurent par milliers. Attribuer cela à une volonté qui nous dépasse est pour moi ridicule. Si moi j'ai été relégué ici, c'est à cause de mon œuvre ou de ma sottise à moi, pas à cause du destin, encore moins de la nécessité. Les dieux n'y sont pour rien. Ben, il est certain que dans ce cas, tu as raison. Après le mot d'Homère, on ne convient pas. Pourtant, c'est la déesse Thétis qui en parle à son Achille. Et comme déesse, elle doit savoir de quoi elle parle. Et puis surtout Homère. S'il fait parler ainsi Thétis, c'est qu'il doit avoir des preuves que cette déesse existe. Mais pas du tout. Il raconte une légende bien longtemps après que la guerre de Troie s'est produite par l'imbécilité des hommes pour une affaire qui serait l'enlèvement d'une jolie femme. Si Édipe épouse sa mère, ce n'est pas la nécessité, c'est le hasard. Pouvait-il savoir que l'homme qu'il avait tué était son propre père? On attribue cette tragédie au destin, ça fait peur. On personnifie le hasard pour en faire quelque dieu. Et si on disait ça à Pythagore, il en éclaterait de rire. Toutes les mythologies sont des fables bonnes à raconter aux enfants. Rien de plus. Nos ancêtres lointains ont cru que le vent, la mer, le soleil, la pluie, que tous ces phénomènes que les savants ont analysés à Alexandrie étaient des dieux. Mais réfléchis un peu, mon cher Callias. Notre seul dieu, mais c'est l'imagination. Alors, tu crois pas que les dieux nous écoutent? Non. Il y en a à Rome, mais pas ici, en tout cas. Mais d'accord pour Rome, mais pourquoi pas ici? Depuis que j'ai essayé de les prier, ils ne m'ont pas entendu. Bon, mais ici, on a des sorciers, avec plein de pouvoir. Ils disent que ce sont les dieux qui nous guident. Remarque, je me demande si je ne vais pas être de ton avis. Je prie aussi bien quand il y a de la tempête qu'il fait trop froid, mais ça ne change rien. Alors, tu dis qu'il y en a à Rome. Oui, mais pas des dieux qu'on ne voit pas. Ce sont des gens comme toi et moi. Par exemple, l'empereur Octave Auguste. On l'appelle Divus, oui, Divus Augustus, c'est-à-dire semblable à un dieu. D'ailleurs, tout ce qu'il décide est considéré comme une décision prise par un dieu. Et même sa femme Livie, on l'appelle Diva Augusta. J'en sais quelque chose, puisque c'est elle qui a dû me faire condamner. Tu vois, mon ami Callias, où j'en suis. Les Romains sont tellement stupides qu'ils divinisent des hommes et des femmes. S'ils se mettent ainsi dans le pétrin, tant pis pour eux. Dans un de mes livres, j'avais fait parler Pythagore, qui faisait semblant d'y croire. S'il y a des dieux, ils sont trop loin de nous pour s'en préoccuper. Tes philosophes sont de cet avis. Après la mort, notre seul port d'arrivée est la poussière, rien d'autre. Nous ne comprenons rien à rien. Notre seul devoir est de vivre le moins mal possible. Et puis, s'il y a des dieux quelque part, où sont-ils? Selon Pythagore, ils n'ont aucun souci de la destinée humaine. Eh bien, moi, je partage cet avis. S'il veut faire comprendre à Octave que mon œuvre n'est en rien criminelle, que j'ai seulement commis ce que j'appelle une erreur, ce n'est pas à un dieu que je m'adresse. C'est un homme qui vit, qui dort, qui mange, qui fait pipi et caca comme tout le monde, qui peut se tordre une cheville, se faire raser par un barbier, arracher une dent pourrie, avoir la fièvre tierce et le reste. Tiens, monte un jour sur l'Olympe, regarde bien, et si tu vois ton Zeus assis sur des latrines, en train de pousser parce qu'il a mal au ventre, alors je croirai à ton Zeus, mais il faudrait que tu insistes et que me dise « Je l'ai vu de mes yeux vus, il avait la colique et des problèmes pour s'en débarrasser. » C'est intéressant ce que tu me dis là. Il va falloir que je réfléchisse. Remarque, dans les poèmes d'Homère, on voit les dieux, puisqu'ils viennent sur le terrain, se battent, s'engueulent, s'entourent de nuages, comme le fait Athéna Pallas. Zeus est un parti des Troyens, un autre est pour les Grecs. Et sur l'Olympe, il y a du tintouin entre eux. On s'y envoie des assiettes à travers la figure. Alors que croire, moi, pauvre? Mon bon Callias, il ne faut pas croire, il faut seulement savoir. Si ton Héphaïstos, mon Vulcain, est un dieu, je n'en crois rien. Quand il était adolescent, un jour qu'il avait manqué de respect à Héra, sa mère, elle lui a envoyé une telle paire de gifles qu'il en est tombé au bas de l'Olympe. Il s'est cassé une jambe. Et il est resté celui qu'on appelle l'illustre boiteux, comme toi. Tu n'es pas illustre, mais assez intelligent pour comprendre. Oui, bon, mais toi, comment as-tu fait pour savoir? Tu as réfléchi? Oui, oh, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai lu tous les sophistes et philosophes de ton pays. Par exemple, des gens comme Zénon, Épicure. Tu connais Diogène? Non, je ne sais pas lire. Ah oui, pardon, j'aurais dû y penser. Mais tu sais, nous le mettons par cœur, et à cette occasion, tu peux aider ta réflexion. Tu trouveras que toutes ces histoires de Dieu ne sont que des fables pour des enfants ou pour des augures, des aruspices étrusques qui s'attribuent du pouvoir sur les peuples. Ils inventent la peur et on leur obéit. Seul un pharaon d'Égypte, Amenophis IV, a tenté de libérer le peuple de croyances absurdes. S'il y avait un dieu, pour lui, c'était le soleil qui crée la vie ou s'en débarrasse par son absence. Sans soleil, pas de vie sur terre. L'ombre fait crever les végétaux et les autres vivants qui s'en nourrissent. Sans soleil, rien ne pousse. Seulement voilà, les clergés des autres dieux ont considéré là une concurrence déloyale. Ils se sont débarrassés du pharaon et les prolétaires égyptiens sont encore au même point. Ayant longtemps regardé ce Romain de ses yeux gris, Callias se mit à rire sous sa tignasse et dans sa barbe. Au milieu des autres paquets, Ovide trouva une cassette facile à ouvrir. Il y avait de l'argent, 1 500 sesterces. Par chance, elle n'avait pas été pillée pendant ce long voyage. Et puis aussi une liasse de papier à écrire, 5 tablettes de cire, de l'encre noire. Oh, ce devait être Fabia ou un copain qui lui envoyait tout ce nécessaire pour qu'il puisse encore correspondre avec elle et les autres. Si c'était bien elle, la réponse au malheur de son époux restait sans valeur sentimentale. Bon, après tout, il accuserait réception. Il lut et relut toutes ses lettres, et même à voix haute, pour entendre du latin, car il redoutait de perdre son vocabulaire. Avec le temps, le grec de Callias est en effet fort limité. Quant au baragouin local, il en usait pour les nécessités du quotidien, pour parler avec les pêcheurs, avec des gens capables de réparer la maison si le vent emportait les tuiles. Callias ne comprenait rien à ces relectures et restait silencieux, par respect. « Bon, dit-il, tu as lu quelques lettres que tu laisses là sur la table. Mais il en reste une au fond de la caisse. » Tu l'as pas ouvert, tu l'as oublié. Tu veux pas la lire? Ah oui, tu as raison. C'était une lettre de Curtius Atticus. Elle était écrite en grec. Curtius avait été surnommé Atticus car il était féru de littérature grecque et pratiquait bien la langue des Athéniens. Ovide lut à haute voix, puisque Callias pouvait comprendre. Marcus Curius Atticus à Ovide, salut. Depuis 2 ans passés que tu es parti, avec ta femme et tu, Ticanus, nous avons pensé chercher à savoir la vérité vraie sur la cause de ton bannissement. Tu sais mon amitié et mes liens d'hospitalité avec Tibère, fille de Livie, que César Octave a adopté après le décès de ses descendants directs. Or, avec Tudicanus, nous sommes allés le rencontrer pour apprendre de lui éventuellement ce qu'il pouvait connaître de ton affaire et des sentiments du couple impérial à ton égard. Par son intermédiaire, nous pouvions espérer parler directement à Octave sans la présence de Livie. Pas facile, mais nous devions tenter la chance. Nous avons été poussés à prendre cette décision du fait qu'à Rome, et dans tous les cercles où les artistes tiennent la première place, les bruits les plus contradictoires ont commencé très vite à courir sur ta disparition. Tuticanus et moi, nous sommes enquis auprès de Fabia pour savoir ce que tu étais devenu, puisqu'on ne te voyait plus, alors que ta présence était et est toujours très recherchée, voire attendue. Elle nous a répété en larmes qu'un matin, un préfet du prétoire était arrivé à l'aube et t'avait commandé de plier bagages. Sur ordre de César Auguste, tu devais rejoindre la ville de Tomis chez les Jettes et les Sarmates sur les bords du pont Euxin, et cela du fait que tu avais écrit des œuvres condamnées par la morale. Tu aurais donné aux femmes romaines des recettes diverses pour séduire sans souci de la bienséance, et que dans tes métamorphoses, tu aurais prêché en faveur de la secte des pythagoriciens contre laquelle César Auguste éprouve les sentiments les plus négatifs. Nous avons estimé cela très bizarre, parce que tu n'étais pas le seul à écrire des œuvres de ce genre, ni louer la pensée de Pythagore. Pour en revenir à Tibère, il a accepté de nous recevoir, mais à nous entendre, il a manifesté d'abord des réticences. Il n'avait aucun pouvoir décisionnel, le privilège d'Octave Auguste, chef suprême de l'Empire. Mes chers amis, en particulier toi, Marcus Curtius, mon hôte, je ne vous cacherai pas que l'affaire d'Ovidius Naso est pour moi aussi très obscure. Il n'y aurait pas que le problème de ses œuvres poétiques. Pour le reste, et s'il y a autre chose, je ne suis au courant de rien. Bon, je suis désolé, croyez-moi. Bon, ai-je répondu à Tibère, mais tu es maintenant fils d'Octave, il ne l'est pas interdit, soit de lui parler, soit de lui poser des questions. Au nom de nos lieux communs d'hospitalité, je te répète ma demande. Au besoin de proposer à César de nous recevoir, nous, pour tenter d'éclaircir cette affaire. Publius Ovidius est un excellent ami. Nous savons même que César Auguste aurait apprécié son génie. On n'aime pas quelqu'un au point de le bannir. Certes, certes, a répondu Tibère. Cependant, je dois vous faire savoir que sur les affaires de mœurs, César Auguste, bien que mon père, désormais, est un homme très sourcilleux. Pas prudent, méfiant. Vous savez contre combien de complots il a dû lutter à la limite d'être assassiné au cours d'un sacrifice officiel. Et dans ces conditions, je vais forcément hésiter à lui parler en forceur d'un banni, s'appellera-t-il Publius Ovidius, poète de son état. Il pourra me dire que je me mêle d'histoires dont je n'ai rien à savoir, qui serait obligé de tenir ma mère, Livia Auguste, au courant de ma demande, et qu'elle risque à son tour de s'y opposer radicalement, même pour des raisons personnelles. Personnelles, ai-je dit à Tibère. Oui, car le bruit a couru aussi qu'elle lui en veut, pour je ne sais quoi. Excuse-moi, ami Callias, car la lettre est longue. Mais non, tu ne me lasses pas. Ainsi, je peux savoir un peu plus de ta personne et de tes motifs de si grands ennuis. Nous avons si peu parlé ensemble, de tout et de rien. Finalement, tu es un ami, et malgré tout, je ne te connais pas. Si un peu, et donc pas assez. Entre amis, les secrets empêchent la véritable amitié. Tu sais ma présence et mon aide. Tu vas me répondre peut-être qu'un grec, il faut s'en garder. Non, notre filia est solide. Le malheur de tous deux n'est pas étranger. Toi, pour celui dont tu souffres tant, et moi, pour le mépris que l'on m'inflige. Alors Ovide poursuivit la lecture de Curtius. Et comme Tibère semblait vouloir se dérober, je lui ai demandé de ne plus tergiverser, et de me dire enfin s'il acceptait ou non d'inviter César à nous écouter. Il n'a pas refusé net. Je ne te garantis rien. Comme tu es mon hôte, la seule chose que je promets, c'est de trouver un moment favorable. Rien d'autre. Même moi, il ne m'est pas aisé de l'aborder tant il est occupé. Et puis avec l'âge, il met en avant sa fatigue, ses insomnies, ses douleurs, bref, on verra. Tibère s'est levé et nous a laissé prendre congé. Mais après 2 mois d'attente, nous avons reçu l'agrément de César Auguste. À peine étions-nous arrivés à l'heure dite, qu'Octave arriva lentement, appuyé sur sa canne. Moi, qui l'avais aperçu de loin au cirque, il y a quelque temps déjà, il m'est apparu très vieilli, les joues creuses. 73 ans, ça marque. Ah, vous voilà, mes jeunes amis, je ne vous demande pas comment vous allez. À votre âge, tout va bien, asseyez-vous. Ah oui, Tibère m'a proposé de partir pour la Germanie pour exterminer ce qui ont massacré Vervus et sa légion. Oh, je lui ai accordé cette entreprise, parce qu'il faut en finir avec ces sauvages qui n'ont aucune morale, aucune religion, qui passent leur vie dans des forêts et se battent entre eux comme des chiffonniers. Il est donc en train de préparer ce grand départ. Livy en tremble un peu, mais moi j'ai confiance dans les qualités militaires de notre fils. Voilà, mes jeunes amis, vous êtes au courant des dernières affaires. Merci de votre visite. Puisse Jupiter vous protéger avec le secours de Quirinus. Mais, César, nous sommes venus pour savoir ce que tu vas décider pour notre ami Ovide, ce poète que tu aimes tant. Il souffre loin de Rome et de ne plus te reciter ses vers. Et une autre fois, mes jeunes amis, une autre fois. À mon tour, ami Ovide, de te dire, fais en sorte de te bien porter. Oh, mon bon Callias, conclut Ovide, il n'y a rien de plus dans cette lettre, sauf mon désespoir qui va continuer de m'épuiser. Mais c'est bien triste tout ça. Il n'y a pas d'autre laine dans la caisse. Non, oh, j'ai tout lu, hélas. Ne sachant quoi dire, Callias s'en est allé. Il reviendrait le soir. Le relégué trouvait des moyens de survivre quand revenait à sa mémoire la douce enfance vécue à Sulmone et avec son grand frère. C'est là qu'ils étaient nés tous deux. Un gros village perdu dans le Samnium, à 120 milles de Rome. Son frère le précédait d'un an, lui aussi né en mars. Leurs parents souhaitaient les deux anniversaires ensemble. Chacun avait son propre gâteau. Très vigilantes, leur mère les avait élevés dans la religion, la politesse, la bonne tenue, le respect des ancêtres, le rang des chevaliers. Leur éducation avait été sévère, comme jadis pour les jeunes de la vieille génération. Quand son frère eut 12 ans, lui Ovide 11, les parents avaient décidé de les envoyer à Rome pour des grandes études. Il s'agissait de fréquenter les professeurs de rhétorique. C'était la mode. Le frère travailla beaucoup cette discipline où il fut remarqué par les maîtres. Mais Ovide n'aimait pas la musique, le chant, la poésie. La mère louait fort cette tendance à bien prononcer le latin, à faire déjà des premiers vers qui la charmaient. Mais le père s'inquiétait de ses goûts qu'il critiquait par peur de le voir n'arriver à rien dans la vie. Il lui répétait, « Mais pourquoi te lancer dans des études sans profit ? Même le vieil Homère n'a laissé aucune fortune. Alors les muses, bon, pauvre garçon, sombre avenir. » Un temps, il avait suivi l'idée de son père. Il avait abandonné les muses pour ne se consacrer qu'à la prose. Mais cette prose, c'était des vers. Son frère commençait à peine à s'exercer dans les tribunaux qu'on ne put fêter son 21e anniversaire. Il mourut subitement, sans que la famille en connût la vraie cause. Une grosse fièvre, avait-on dit, et Ovide ressentit de ce terrible événement la perte totale de la moitié de lui-même, et à partir de ce jour, leur mère n'eut plus d'autre désir que celui de pleurer. Pour ses 19 ans, sur l'intervention de son père, Ovide eut l'honneur de faire partie des duoiri dont la charge était de surveiller le bon fonctionnement des prisons. Mais il n'était pas resté dans cette charge qui n'allait pas du tout avec son tempérament. Il préféra rencontrer ses poètes qui faisaient des récitations publiques. Il y avait Macaire, Ponticus, Horace, avec lequel il s'était vite lié. Ce dernier lui fit rencontrer Mécène. C'est à cette occasion que Ovide rencontra une seule fois Virgile. Hélas, sa seule mémoire lui faisait revivre ce temps béni, supporter une solitude ravageuse. Heureusement, il revoyait chaque jour le brave Callias, qui arrivait parfois à le faire rire et surveillait de près sa nourriture. Sans lui, il ne serait plus. Il faisait rôtir des oiseaux, de la viande d'ours qu'il se procurait par-ci par-là. Autrement, il fallait faire cuire longtemps des mets locaux à donner la nausée. Novembre venait de frapper le pays. Même le Danube était pris par les glaces et on pouvait en traverser à pied certains bras. Des gens du pays faisaient rouler les chariots. Habitué aux températures d'Italie, le poète souffrait de ce froid. Et comme les habitants du lieu, il vivait dans des peaux d'ours, de loups, d'autres bêtes. Les tissus, oh, il n'y en avait pas. Et dehors, sa barbe se raidissait sous l'effet du givre. Il ne voyait plus, comme règne, que celui de la mort. Mort des gens, des animaux, de la nature. Il fallait manger du poisson cru à peine dégelé, et quand il y en avait. Si Octave et Livy le voyaient dans cet état, ils le rappelleraient et choisiraient un lieu d'exil moins éprouvant. Il fallait une santé de fer pour résister à un tel traitement. Si des Romains le regardaient ainsi affublé, ils pousseraient des hauts cris et iraient aussitôt au Palatin pour protester de cette condamnation. Jamais un des légionnaires d'ici ne lui avait donné, ne serait-ce que prêté, un manteau de laine. Un relégué, vous pensez bien. D'ailleurs, ces Romains de garnison restaient 1 ou 2 ans. Des militaires, dont le seul souhait, disait Callias, se réduisaient à repartir dès qu'ils auraient fait leur temps dans l'attente de leur mutation. Par force, Ovide parlait un peu le geth, et presque rien de sarmate. Ces nomades circulaient partout, à cheval et à la recherche d'un vol ou d'une bagarre. Aucun qui n'eût un carquois, un arc redoutable par sa puissance, des flèches enduites de venin de vipère. Une langue rauque et grave. On ne voyait jamais leurs femmes tenues enfermées. Parfois, Callias racontait qu'une jeune fille avait été enlevée. Tout le monde aurait pu comprendre à quel point un tendre poète pouvait détester son exil dans ce pays de barbares. Ses mœurs tenaient pour lui de la sauvagerie. Il n'avait commis aucun crime, seulement celui d'écrire des vers qu'il n'avait pas eu le bonheur de plaire au maître de l'Empire, surtout à sa femme. Chose étrange, puisque son art d'aimer avait eu auprès des femmes, justement, un énorme succès. Oui, mais elle, Livy, était une vieille ridée, devenue moche, détestait la beauté des jeunesses. Elle se mêlait de tout, fourrait son nez dans la politique, faisait du prêchi-prêcha, voulait de la morale, oubliant sa vie antérieure fort agitée. Tout le monde le savait. Dans une soirée mondaine, elle avait fait des mines et trouvé le moyen de se faire remarquer par Octave. Il l'avait trouvée jolie, embarquée dans une chambre, violée peut-être, forcée à divorcer, ou bien plus, elle-même l'avait invité Octave à faire demander ce divorce. Elle sentait qu'avec lui, elle aurait une vie autrement plus riche. Le neveu de César, sacré coup! Les parents d'Ovide avaient eu la chance de mourir assez tôt pour n'avoir pas à supporter la disgrâce de ce fils si chéri des muses. Dans une de ses anciennes lettres, Tudicanus s'étonnait que son ami le poète ait pu vivre dans un pays de sauvages. Pourtant, la Rome de ce temps non seulement semblait un pays de sauvages, mais on y vivait même avant l'âge de Saturne. Bref, un pays de sauvages vivait en meilleur état que le monde romain. Un jour, il avait entendu Mécène accuser le monde politique comme une forêt des premiers temps de l'homme. La seule loi, celle de la nature, la loi du plus fort. Entre tes prétendus amis, tu retrouves la même loi. Dès qu'un pouvoir possible apparaît, il n'y a plus d'amis. Cet Octave en savait quelque chose. Combien n'en avait-il pas envoyés en exil, sans compter ce qu'il avait fait jeter dans le Tullianum, sinon décapité? Et tout compte fait, on pouvait presque s'estimer heureux de vivre, de pouvoir écrire et correspondre de si loin, puisque les lettres arrivaient au destinataire. Se demander si Octave n'avait pas tempéré Livy, qui aurait sûrement voulu plus de violence, sinon la mort. Depuis sa condamnation, il passait du temps à supputer sur les causes de son malheur. Il est vrai que les femmes avaient souvent provoqué chez lui une curiosité têtue. Car il aimait non pas les femmes, mais la femme. Peut-être à cause de l'énorme place que tenait en lui sa mère, si belle, si tendre. Dès son enfance, elle avait tant aimé le sens inné de la poésie chez son plus jeune fils. Elle l'avait encouragé, félicité, poussé à continuer. Pour elle, il avait du talent. Rien qu'à l'écouter parler, elle souriait et applaudissait. Elle avait suivi de près la composition des faces, des héroïdes, des premiers livres des métamorphoses, en récitait les passages qui lui paraissaient particulièrement réussis. Elle pleurait de bonheur à écouter les premiers extraits de cet art d'aimer et parfois disait « Mais dis-moi, mon grand-fils, tu en sais des choses ?» Il était ravi, seul garçon qui restait à sa mère toujours inquiète. Elle redoutait que la mort de l'aîné finît un jour par emporter le cadet chez les disparus. Avec le groupe de ses amis, il aimait la plaisanterie, la dérision. Dans le monde romain, à Rome, les occasions ne manquaient pas. Il ne devait pas y avoir beaucoup de changements. Les embrouilles politiques, les affaires douteuses, les trafics, les collèges de mafieux, les cultes tous plus corrompus les uns que les autres. Car les cultes à Rome, oh, il y en avait partout. Des temples, des maisons de rencontres et de prières, des écoles religieuses, de l'apprentissage par cœur de formules obscures, des sacrifices, des autels dégoulinants de sang, des hurlements de porcs qu'on égorge, des aruspices fouillant les tripes pour vous dire l'avenir. Pseudo-science pour imbéciles, tradition archaïque. Ovide avait 6 mois lorsque Cicéron fut assassiné. Peut-être en avait-on parlé dans la famille à Sulmone. Il était trop petit pour savoir. Par la suite, dans sa 15aine d'années, un de ses copains lui avait cité une remarque de Cicéron. Deux aruspices ne peuvent se regarder sans rire. Ainsi, ce grand orateur, qui avait fait des pieds et des mains pour être Flamine de Jupiter, donc un grand prêtre de la religion officielle, ne se faisait aucune illusion sur la valeur de ses pratiques abominables. Car à certaines occasions, il assista forcément à ce qu'ils appelaient là-bas des « suaveteriles », autrement dit, le massacre d'un cochon, d'un bélier, puis d'un taureau. Tout ça pour plaire à Jupiter. On en faisait brûler des morceaux, la fumée devait plaire aux narines de ce dieu, avec son temple au sommet du Capitole. Les dieux devaient se contenter de la fumée. Mais festin pour les prêtres qui se partageaient les viandes et engobergeaient leurs familles. Certes, dans l'enfance d'Ovide et de son frère, leurs parents offraient aux lards domestiques des fleurs, des légumes, des gâteaux, la soupe des repas, mais aucun égorgement. Ces enfants auraient hurlé d'indignation. Ils avaient été élevés dans l'amour des animaux, entre chiens et chats, raison qui leur avait fait faire tant aimer Pythagore, lequel interdit de faire couler le sang pour se nourrir. Ovide avait mis en poésie quelques-uns de ses conseils, et se les rappelait parfois, lassé par les cuisines très carnées des jettes et sarmates. Gardez-vous, mortels, de souiller nos corps par des mets abominables. Vous avez les céréales, les fruits dont le poids fait courber les branches, des raisins gonflés de jus, du miel, du lait. La terre vous offre des aliments qui ne sont pas payés par le meurtre et le sang. Laissez cela aux animaux féroces. Mais Atomis, régime impossible. Pas d'agriculture, sinon un peu de blé les bonnes années. Et parfois le poète pouvait se nourrir d'un pain grossier que lui apportait Callias. Avec les autres Grecs, Callias trouvait diverses céréales, J'écrasais à la meule familiale, en pétrissais la farine, en faisais des pains et des gâteaux délicieux. Pas besoin de demander à Callias une telle faveur. Lui, mais un ami sans calcul. Malheureux, il le savait, tous deux malheureux. Cela lui suffisait. Si Ovide devait retourner un jour à Rome, il n'y aurait retrouvé personne d'une telle délicatesse. Mais à Rome, il n'y avait pas que ces cultes féroces qui remontaient à Romulus. Avec les siècles, d'autres dieux et cultes avaient gagné la faveur du peuple. Il y avait entre autres celui d'Hercule, prié par les gladiateurs avant d'arriver sur l'arène. « Ô toi à qui les cieux ont imposé deux fois six travaux, viens à mon secours !» Et puis tous ces dieux étrangers à la terre italienne. Ils venaient d'Asie, de l'Inde, de Germanie, de la Gaule, de la Grèce, de l'Afrique. On avait le choix. Des centaines de sorciers avaient envahi la capitale. Sorciers de tout poil qui prédisent et surtout qui encaissent, car ces gens profitent de la naïveté populaire pour réaliser des fortunes considérables. La naïveté des peuples rapporte gros. Les femmes aimaient celui d'Isis. Cette déesse, révérée en Égypte, redonnait la jeunesse, disait-on. Déesse de la résurrection, car à sa manière, elle avait ressuscité son mari Osiris, devenu par la suite, lui aussi, dieu de la résurrection. Dans toute l'Italie, on lui avait construit des temples. Un des plus connus avait été construit à Pompéi. Dans ces temples sévissait l'interdiction de toute présence masculine, parce que s'y déroulaient des rituels exclusivement réservés aux femmes. En présence d'un seul homme, prêtre probablement eunuque, prétendument venu des bords du Nil, des femmes s'entraînaient à redonner la vie à un cadavre coupé en 14 morceaux, comme la légende dit que Seth, frère d'Osiris, aurait ainsi découpé le corps de ce frère dont la beauté l'avait rendu jaloux. Des Romaines s'adonnaient au même rituel, qui consistait, Ovide l'avait vu, à des actes sexuels censés leur redonner à elles-mêmes la beauté perdue de leur jeunesse, autant qu'à rendre du désir à leurs époux fatigués du devoir conjugal. Et comme le poète avait raconté ça à des amis, les gorges chaudes avaient répandu ce bruit jusqu'aux oreilles d'Octave. Auguste en avait poussé une colère impériale. Le divin empereur l'avait convoqué au Palatin. « Tu as vu une chose que tu n'aurais jamais dû voir. Non seulement tu as vu, mais tu en as parlé et on en a ri. Livy le sait. » « Mais Octave Auguste, s'il te plaît, tu ne vas pas attacher d'importance à une simple erreur de ma part. Oui, je la reconnais, mais... »« Simple erreur. Oh, c'est la manière de qualifier ça. Mais Livy, non. J'ai dit. » Ovide rentra chez lui, mort d'inquiétude. Qu'allait devenir sa femme, sa fille, ses livres, ses affaires, sa fortune, qui avait grossi malgré les avertissements de son père, car on lui achetait à bon prix des copies de ses poèmes, en particulier l'Art d'aimer. Dans un sac grossier, Callias rapportait de la purée de fèves, une mouette qu'il avait prise à la pêche et rôtie chez lui, tout ça pour le faire manger, au moins un peu. Il le voulait en bonne santé. Ovide lui raconta cette histoire d'Isis. Il en resta ébahi. « Mais, lui dit-il, c'est une histoire de fou. Et puis pourquoi es-tu rentré dans ce temple interdit aux hommes? Tu la savais, cette interdiction. »« Ben, là, oui, mais c'est mon vieil ami d'enfance, Tuticanus, qui a préparé le coup. Oh, il a comme copain Vitellius, qui connaît bien ce temple, puisqu'il en est gardien. » Alors, Tuticanus m'a proposé d'aller jeter un œil, par curiosité. Je lui ai répondu que la chose était risquée. « Mais non, s'il y a du foin, nous pourrons filer tout de suite, t'inquiète pas. » Mais quand j'y ai vu Livy nu pratiquer le culte, Je n'ai pu m'empêcher de rire et me suis promis de raconter cette aventure aux amis. Et on a arrosé ça avec un bon vieux Falerne. Cette nudité fripée avait du ridicule, oh, tu peux me croire. Mais tu es plus qu'imprudent, a rétorqué Callias. Les gens parlent, et quand ils parlent, ce qu'ils disent est multiplié par 100, par 1000. Eh oui, c'est justement ainsi que la chose est arrivée aux oreilles d'Octave. Car il y a eu un traître dans le paquet des amis, un vieil imbécile qui ne peut garder sa langue, et ragote à tous les coins de rue, même au forum. Au marché, il tient un étal de viande et légumes, tu penses bien. Il entretient le journal du cru. Je sais que c'est lui, mais le prouver. Pouvais-je dire à Octave que je connaissais ce salaud? Octave m'aurait répondu, « Oh, tant pis pour toi !» Et pourquoi n'as-tu pas fait un procès à ce type? Impossible! Les procès traînent en longueur, il faut des avocats, acheter les juges, remuer ciel et terre. Et puis tenter un procès, il m'aurait fallu le faire bien avant qu'Octave apprenne la chose. Eh oui, je sais, en Grèce c'est pareil. Les lois, tu parles. Mais enfin, je n'aurais jamais dû te mettre une telle affaire sur le dos. Oh Marc, sans ton malheur, je ne t'aurais jamais connu, je n'aurais jamais eu ton amitié. Ovide remercia Callias de sa délicate attention. Tous deux dînèrent dans un silence que Callias voulut rompre. Je t'ai fait de la peine? Oui, un peu. Allez, je ne t'en veux pas, tu es si bon pour moi. Mais ne me fais pas de morale. J'ai horreur de discours inutiles. Je suis très malheureux, loin de l'Italie. Parfois, j'ai envie de mourir. Il n'y a guère que toi sur qui je puisse compter dans ce sale pays. Je ne comprends pas pourquoi tu y restes au lieu de retourner en Grèce. Tu ferais là-bas des amis véritables. Athènes a plein de ressources, des théâtres, des étrangers y voyagent. Des Romains y font leurs études. C'est grand, c'est beau. Tu apprendrais vite à lire, tu écouterais les conférences des sophistes. Tu boirais des vins excellents, les filles sont belles et avenantes, non? Oui, si tu le dis, mais moi je suis originaire de Milet. Vrai, oui, mais Athènes, c'est autre chose. Je te le dis parce que j'y suis allé parfaire ma rhétorique. Ta rhétorique, c'est quoi ça? L'art de bien parler? Eh bien, en tout cas, tu aurais mieux fait de te taire. Le soir allait tomber. Ils sortirent en promenade par les rues pleines d'ornières. Les maisons, oh, si on pouvait les appeler ainsi, étaient des baraques en bois. Des troncs d'arbres équarris chevauchés à angle droit. Les toits, des entassements de branchages séchés, capables de supporter les neiges abondantes qui ne fondaient qu'au mois de mai. Parfois, ces toits, constitués de planches grossières à peine jointoyées, laissaient passer les pluies d'été. Aucune importance au vu de ce qu'on pouvait considérer comme du mobilier. Des caisses comme partout, des coffres recouverts de cuirs épais. Loin des mosaïques italiennes, leur seule simple terre battue sur laquelle Jettes et Sarmates vivaient avec leurs animaux domestiques, servaient de décor. Porcs, poules, lapins, moutons noirs donnaient la chaleur animale. Ces gens n'avaient pas la moindre idée du luxe, sinon du confort. Seuls des légionnaires romains en garde avaient construit les leurs en pierre sèche, leurs tuiles en bois. Le poète n'avait jamais vu leurs intérieurs, interdits à l'exilé, autant que les temples d'Isis dans tout l'Empire. Thomis ressemblait à ces camps militaires conçus jadis par les généraux. Quelques tentes en été, et ces légionnaires vivaient de produits apportés par des bateaux. Mais à partir d'octobre, ces soldats se vêtaient comme les autochtones. Ils auraient eu beau jeu de porter casques et cuirasses. Ils en seraient restés gelés pour sur place. Heureusement, ces soldats défendaient Tomis contre des incursions de sauvages venus d'on ne sait où. Les Grecs, eux aussi, avaient des armes. Ovide n'avait droit à rien, strictement rien, sauf des inspections régulières pour constater qu'il se tenait quoi. Les soldats ne fouillaient pas dans ses papiers, ils ne contrôlaient pas les lectures venues de Rome, ni celles qu'ils s'apprêtaient à expédier. C'était sa seule consolation. Lui restaient donc quelques permissions. Il n'avait pas empêché Callias de venir tous les jours aider Ovide, lui tenir compagnie, lui faire la cuisine, nettoyer son désordre, conserver, raconter des nouvelles sans intérêt. Pourtant, un jour de pluie, Callias se décida. Il voulait savoir comment et pourquoi ce poète latin avait été exilé à Tomis. « Tout compte fait, lui dit-il, tu ne m'as jamais raconté ce jour fatal où l'on est venu t'annoncer ta condamnation à partir pour la Scythie. » « Oh, tu veux vraiment tout savoir de moi? Eh bien voilà !» Un centurion de la police judiciaire est arrivé à la première heure un beau matin. Je dormais encore à point fermé aux côtés de ma si belle Fabienne, que je chéris plus que jamais malgré la distance. Elle, que je ne pensais pas à ce point placée dans une solitude menaçante. Faisait déjà beau dans cette ville devenue la mienne au fil des ans. On m'y aimait auprès de la société qui sait lire et même écouter. Le soleil envahissait la maison en passant par-dessus le toit et illuminait tous ces décors qu'un grec venait de réaliser à grands frais pour ma bourse, dont une mosaïque au sol. Mon chien boya. Donc arriva un beau et grand centurion, cuirasse de fer et de cuir, une jupette pourpre, un casque argenté à aigrette. Tout pour impressionner le citoyen. Et un centurion parle sans prendre des gants, comme avec ses hommes. Il y avait deux prétoriens avec lui, l'air sévère et la tenue moins compliquée. Bref, ce qu'il faut dans le militaire, je veux dire le sérieux et le glaive à la ceinture. À peine revêtu d'une tunique ordinaire, je les fis entrer, tenant mon molosse par son collier. Avec lui, on ne sait jamais. Fabia continuait de dormir comme nos serviteurs. C'était juste à la première heure, dis-je. Déjà, les rues bruyaient de passants, de cris, de jurons. Et le centurion déploya une feuille de papier et lut à haute voix. « Manius Corvinus, centurion de la garde prétorienne, j'ai un ordre contre toi de la part de César sous Octave Auguste. Je viens du Palatin. Je vais lire cet ordre, le voici. Publius Ovidius Naso est relégué sur les bords du pont Euxin. Il doit quitter Rome en ce jour, sans précision de personne ou d'objet à mener ou emporter avec lui. Il doit se rendre à Brundisium pour y embarquer. Le dit Publius Ovidius Naso est accusé par un tribunal d'avoir écrit et publié des ouvrages condamnés par la morale et d'avoir, de ce fait, entraîné les femmes romaines à des comportements qu'une romaine digne de ce nom ne saurait pratiquer. D'autre part, le dit Publius Ovidius Naso a répandu dans la ville et les provinces des caricatures qui ont provoqué des rires au sujet de l'impératrice Livia Drusilla. Le sacrilège commis est en outre d'avoir assisté à des cérémonies interdites aux hommes et d'avoir vu des actes et rituels réservés aux seuls initiés, puis d'en avoir averti plusieurs personnes pour en donner des occasions de moquerie et de scandale. César Octave Auguste ne recevra de la part du dit Publius Ovidius Naso aucun appel ni aucune justification. Texte lu en présence du dit Ovidius Naso et des deux prétoriens ici présents. Des amis m'avaient parlé de ce qui se passait au Palatin. Livy prenait beaucoup d'âge et Octave lui aussi, au point que leurs rapports amoureux, qui avaient commencé dans la fougue et le désordre, s'étaient non seulement espacés, mais avaient pris la tournure de la patience pour se supporter. Je savais que la femme n'accepte pas de vieillir, que les rides sont des aveux et que toute femme qui fut belle et attirante sent ainsi approcher non seulement l'abord, mais surtout le détour des regards. C'est vrai, Livy avait été très belle, et même plus que ça, intelligente, savante, grande lectrice de la poésie et de l'histoire. Elle avait comblé d'honneur le vieux Tite-Live, dont elle avait fini par connaître nombre de passages par cœur. Et quand j'ai atteint mes 40 ans, elle déclamait les deux premiers livres de mon art d'aimer, et m'appelait parfois pour lui en faire des récitations, pendant qu'on la coiffait, qu'on la maquillait, qu'on en faisait pour Octave une nouvelle Artémis. Si une femme ressent que la vie ne lui fait plus de cadeaux, elle en devient prude et se met à mordre. Elle enrage et condamne toute jeunesse avec une hargne de louve en mal d'appétit. Ah oui, dit Callias, avec ma sœur aînée, j'en sais quelque chose. Jeune, elle passait pour une des plus jolies du pays, mais aujourd'hui, moi, c'est ma barbe qui cache ma beauté. Callias avait l'humour de soi et Ovide ne put se retenir de rire. Il reprit. Oh, je sais aujourd'hui que Livy est derrière ma naissance, mon massacre. Non, je ne le sais pas, j'en suis persuadé, mon si bon ami. Quand Marius Corvinus est reparti avec ses deux prétoriens, j'ai cru que toute ma maison et ses habitants s'effondraient sur moi. Non, ce n'est pas Octave qui me chassait. J'arrive toujours pas à le croire. Il m'avait trop montré d'admiration, de respect pour mon œuvre déjà conséquente. Tu vois, mon beau Callias, c'est les raisons de mon malheur. César Auguste, je ne puis lui en vouloir. Il n'est pas si méchant. Après tout, si je suis malheureux, grâce à toi, la chose est supportable. Je me réfugie dans la lecture, sans cesse répétée des lettres reçues. Je refais maintes fois les miennes avant de les envoyer. Je ne suis pas seul, puisque je suis aussi avec moi-même lorsque tu n'es pas auprès de moi. Je prie mes larmes et seul Dieu. Ce sont une bague de ma mère, le bracelet de fer de mon père, la bulle de mon frère que j'ai prise sur son corps juste avant la crémation. Je n'aurais pas dû le faire, ça non plus, mais ce sacrilège me réconforte cependant. Mon frère reste près de moi de cette façon. Tous les soirs, avant de me coucher, je baise la bague de ma mère pour montrer à son amérante que je suis bien son fils. Mon père me rappelle ses conseils que je n'ai pas suivis, hélas. Si je l'avais écouté, je n'aurais pas écrit tant de poèmes qui m'ont tant coûté, puisque sur l'ordre d'Octave, mes œuvres ont été enlevées des bibliothèques publiques. Que me reste-t-il? Les remords de n'avoir pas été avocat. J'aurais pignon sur rue, je serais entouré, chouchouté, complimenté. Pourtant, un ami m'avait dit que ma BD était applaudie et souvent rejouée. Seule œuvre qu'Octave n'a pas interdite, semble-t-il. Et puis de nombreuses copies de mes œuvres sont chez les uns, chez les autres. On me récite dans des réunions de famille. Autre consolation qui contribue à me faire survivre, je ne suis pas un incompris, bien qu'en plein air, on ne parle pas beaucoup de moi. Prudence, un exilé est un rebut de la société. J'en souffre. C'est mon destin. J'espère toujours un revirement des autorités. De cette solitude, je voudrais faire un avantage, une richesse d'inspiration. Grâce aux papiers que l'on me fait parvenir, chaque jour je compose, je me confie à la muse qui me guide. Gentil Euterpe, je sais. On me reproche de passer mon temps à me plaindre. Fabia est la plus agaçante. Elle est ma femme, elle devrait m'excuser. Je ne lui reproche pas de souffrir, elle aussi. Mais au moins, elle est à Rome et peut s'y distraire. Mes distractions se réduisent à des propos de geôles, de sarmates, leurs jeux violents, leurs concours de tir à l'arc, montrer leurs tableaux de chasse, sangliers, tigres blancs, ours de toutes les couleurs, des noirs, des bruns, je ne sais pas plus quoi comme bêtes féroces qu'ils poursuivent dans les forêts prochaines pour leur peau en mangeant les tripes. Grand Dieu! Et puis j'ai toi qui fais tant pour moi. Des jeunes aussi sont bons avec moi. Ici, je ne peux pas dire que j'ai été rejeté. J'ai appris un peu de leur langue, tu le sais. Quelques-uns me reçoivent chez eux et m'invitent à rire de leurs plaisanteries vulgaires, voire grossières. Ce n'est pas de leur faute. Ils ne savent ni lire ni écrire. Je ne veux pas les rejeter, moi non plus. Ce serait injuste et impardonnable. Toutes ces lettres que j'envoie aux uns et aux autres, je sais que Tutticanus les rassemble. D'après leur ton, il m'a dit qu'il nommerait triste leur regroupement et pontique les poèmes que je consacre à ce pays où je survis dans la peine et le sentiment d'une terrible méprise. Alors c'est vrai, tout ce que tu écris arrive à Rome. Oui, les lettres qu'on m'envoie me le prouvent. Mais il n'y a rien à faire, je crois. Ce pays me désespère. L'Italie me manque.